France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est à la mère de famille de faire l'éducation sexuelle de ses filles. De même, pour les garçons, à partir de 7-8 ans, c'est l'affaire des pères. Les filles posent des questions plus lentement que les garçons. Les questions sexuelles ne doivent pas être un enseignement, mais la mère ou le père doivent attendre pour répondre aux questions. Éducation sexuelle et aussi vilain petit canard, une psychanalyste avait les réponses. Rétro, un an après sa disparition, lui rendait hommage.
Rétro.
Moi j'y crois au Père Noël. Alors, j'y crois aussi. Je crois à un jour par an où nous donnons à tout le monde pour le plaisir de donner, en sachant que c'est pas nous qui serons remerciés. Ça sera le Père Noël. Ben, c'est ça qui est de merveilleux, c'est qu'on n'a pas à remercier personne.
Allô, Dolto Bobo. Ou le portrait d'une clinicienne hors pair, en hommage à Françoise Dolto, un an après. Et d'abord la Genèse, tableau numéro 1, rencontre avec Jacques Lacan.
C'était bien avant la guerre, quand j'ai commencé à suivre les conférences qui étaient à l'Institut de psychanalyse, qui avait été fondé par Marie Bonaparte, et qu'elle entretenait en mécène à Paris. Il y avait une bibliothèque, et puis il y avait des conférences qui étaient faites par tous les psychanalystes européens qui venaient là. Et alors il y avait Lacan qui était là, mais je ne savais pas son nom. Et puis, quand j'ai été reçue membre titulaire de la Société de psychanalyse de Paris, ce jour-là, on m'a présenté tout le monde, et c'est comme ça que j'ai su que ce monsieur était Jacques Lacan, mais je ne le connaissais pas encore. Et la particularité de la Société psychanalytique de Paris était qu'à partir du jour où on était élu membre titulaire, on devait tous se tutoyer. Donc, d'une minute à l'autre, tous les membres titulaires me tutoyaient et moi je les tutoyais. Et c'est ainsi que, depuis lors, j'ai toujours tutoyé Lacan dès que je l'ai revu. Et puis, il y a eu des difficultés et des tensions au moment où il a été question de la formation des élèves et où les gens se sont divisés entre ceux qui voulaient une formation tout à fait personnalisée et puis ceux qui, à l'exigence de la société, même pas, à l'exigence d'un certain mouvement de ceux de la Société de Paris, avoir une formation de style universitaire, première année, deuxième année, troisième année, avec pointage, présence, et si on n'était pas présent, on ne pouvait pas passer l'année, alors que c'était complètement opposé à ce qu'est une formation psychanalytique. Lacan a fondé l'école freudienne et il a accepté que je vienne à son école freudienne. Ce n'est pas moi qui ai fondé du tout l'école freudienne. Mais Lacan, plusieurs fois, m'a fait venir pour parler de la façon dont je concevais la psychanalyse d'enfant, l'évolution d'un enfant, etc. Et il était tout à fait d'accord avec ma façon de travailler. Et moi, j'étais très intéressée par ce qu'il disait. J'ai suivi son séminaire dès le début. Je regrette d'ailleurs au début de ne pas avoir pris de notes de son séminaire, mais enfin, je l'écoutais. Et quand je lui disais, car c'est vrai, que je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais que quand je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais que quand je comprenais, pour moi, c'était illuminant d'une multitude de cas. Et c'est ça qui m'intéressait, d'abord. Elle me répondait, mais c'est pas étonnant que tu ne me comprennes pas. Et ça n'a aucune importance, puisque toi, tu fais ce que moi, je théorise.
C'est difficile de savoir qui a raison ou qui a tort. Moi, longtemps, j'ai donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. T'as redonné raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, j'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non ?
Tableau numéro 2, les années 50. Celle qui s'appelait alors le docteur Françoise Dolto-Marais commençait déjà à prodiguer ses conseils en matière d'éducation sexuelle des enfants et adolescents. C'est dans ce genre d'intervention qu'elle fourbira ses premières armes dans un domaine qui allait devenir peu à peu, des années après, sa spécialité.
Aujourd'hui, nous en venons au problème des filles et c'est surtout, je crois, Madame le docteur Dolto qui aura la parole ce soir. Madame Dolto.
Avec le docteur Logre. Mais voilà, c'est que la question d'éducation des filles est beaucoup plus difficile à aborder parce que la majorité des parents, quelles que soient leurs idées religieuses ou leur éducation, ont beaucoup plus de difficultés à aborder la question directement avec les filles qu'avec les garçons. Je crois que c'est de la vie générale, n'est-ce pas ? Autour de vous, la même chose.
Ah oui, certainement, oui. Sans aucun doute.
On admet de dire une vérité en adjectifs et en mots à la jeune fille, mais pas les vérités physiologiques comme on les dit aux garçons.
Vous permettrez de vous dire...
Monsieur François, oui.
Vous permettrez de vous dire que là-dessus, je ne sais pas très bien ce qu'il faut en penser, car moi, père de famille, je remets cette éducation à la mère de famille.
Et vous avez parfaitement raison.
Ah oui, mais je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est bien à la mère de famille de faire l'éducation sexuelle de ses filles. Nous sommes bien d'accord, Madame Dolto.
Mais bien sûr, c'est à la mère de famille, de même que pour les garçons. À partir de 7-8 ans, nous l'avons dit l'autre jour, c'est l'affaire des pères. Mais il faut
attends,
tout de même...
Et à considérer le cas où la mère n'est plus là, où le père est seul.
Oui, mais évidemment. Dans ce cas-là, il faudrait que ce soit par une femme qui soit elle-même épouse et mère. Mais ce n'est pas là la question. La question, c'est que mère ou père, les parents ont une difficulté à envisager. D'autant plus que les filles posent des questions tout lentement. Un jour une chose, deux, trois jours après une autre. Et s'il faut aller dans un entretien particulier et... une visite qu'on ne fait pas souvent à une personne, généralement, elles n'auront pas le courage, elles n'auront pas l'initiative de poser ces questions. Et comme les autres fois, cette question sexuelle doit être un échange entre l'adulte et l'enfant et ne doit pas être un enseignement que l'enfant écoute passivement.
Il doit demander... Vous voulez dire, n'est-ce pas, que la mère ne doit pas un beau jour dire à sa fille « Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner des renseignements, assieds-toi et écoute. »
C'est ça.
Mais bien au contraire, répondre à des questions qui sont incidemment posées.
C'est ça. Et à l'occasion d'affiches de cinéma, à l'occasion de journal qui traîne dans le genre confidence ou autre, à l'occasion d'un fait divers, c'est comme ça que la petite fille pose à sa mère une question à l'occasion des soins ménagers tout en étant avec elle.
Je crois que le père Larère voudrait dire un mot, mon père.
Eh bien, je crois qu'on peut signaler aussi l'importance pour la mère de savoir quelles sont les lectures de sa fille. Car actuellement, en effet, il y a un certain nombre de magazines soi-disant pour la femme qui traînent et où la fillette, déjà, ou la jeune fille, prend des idées plus ou moins fausses. Et c'est à ce moment-là, justement, que la mère doit intervenir.
Oui.
Si vous pensez à certains hebdomadaires qui sont nettement pornographiques, je pense que tout le monde sera d'accord avec vous là-dessus, bien entendu. Madame Dolto ?
Non, ce ne sont pas ces hebdomadaires-là qui sont à craindre. Ce sont ceux qui mettent en avant la coquetterie, les faux cils, les fausses couleurs...
Voilà.
...et la soi-disant personnalité qu'on peut se donner en l'achetant dans des boîtes.
Oui.
C'est ça.
Je comprends ce que vous voulez dire.
La séduction à peu de frais, la séduction sans travail... La séduction sans la compréhension du rôle de complémentarité de la femme, mais une passivité pour rouler l'homme sur l'incapacité, en fait, de cette femme.
Tableau numéro 3, le vilain petit canard. Ce jour-là, à la télévision, on passait un dessin animé de Walt Disney racontant l'histoire du vilain petit canard. Françoise Dolto participait à l'émission et défendait très vivement la cause des enfants adultérins, ces autres vilains petits canards de la société, qui pourraient désormais être reconnus symboliquement par leur père et porter son nom.
Nous, psychanalystes, nous savons que tous les enfants le savent et ils nous l'apportent dans leurs rêves et dans leurs dessins. L'inconscient de l'enfant, c'est tout. Mais avec cette loi, le père n'est pas obligé de raconter à sa famille légitime quand les enfants sont jeunes, à moins que la mère légitime ne l'aide. Mais elle n'est pas obligée. Il donne son nom. Or, le nom, c'est ce qu'il y a de plus important pour un être humain, qu'il ait un nom dès l'origine, qui soit le nom des deux responsables de sa vie, celle qu'il aime et qui lui donne la médiation du monde, qui est la mère, et le nom, le père, qui lui donne la médiation à la société par le langage. Or, c'est cela qui va être la loi. Mais la loi ne va pas être que, obligatoirement, et puis vous ne parlez que des pères, obligatoirement, un père qui a eu un enfant adultérin se devra de l'amener au foyer.
Il non, faut je ne parle pas de l'emmener au foyer, madame.
Ou de le dire à ses enfants.
Il peut le reconnaître, ou la mère de l'enfant peut le faire reconnaître par le père.
Oui, bon. Mais
ces
il
choses
pas...
se seront.
Mais si ce père...
Les enfants l'apprendront.
Bon, et pourquoi ce père viendrait-il à des enfants trop jeunes dire à leur conscience quelque chose qui ne pourrait pas, sur le plan de la conscience, assimiler, puisque leur mère ne l'assimile pas. Il faut qu'ils puissent, pour qu'ils puissent l'assimiler, qu'ils aient atteint l'âge de la nubilité et l'âge, justement, de la compréhension des relations sexuelles.
Et vous pensez que la mère de l'enfant adultérin, éventuellement, ne se chargera pas de le faire savoir?
Mais je pense que la mère de l'enfant adultérin, comme nous venons de voir cette mère
non, est malheureusement une... exceptionnelle.
Mais malheureusement, au contraire, malheureusement, elles sont... très fréquemment comme ça, et si cette femme meurt, cet enfant n'a personne, car elle peut être écrasée par une voiture demain.
C'est ça.
Et il n'a personne, cet enfant.
C'est ça. Autrement dit, si je comprends bien, madame, la reconnaissance, la connaissance par les enfants légitimes de l'enfant adultérin ne produira absolument aucun bouleversement quelconque de la famille légitime.
Mais quand un père a des enfants d'un deuxième lit...
Bon,
quand... Mais les enfants sont toujours jaloux, ils ont envie d'être toujours les seuls, mais ce n'est pas la loi du cœur ni la loi du corps. Alors pourquoi ne pas mettre la chose en vérité ?
Oui ?
J'ai fini. Vous avez fini, maître Gourneau ?
Je crois que des enfants ont besoin que leur père soit responsable de ses actes et surtout de cet acte fondamental qui est de donner la vie. Et que si un jour ils l'apprennent, justement, car bien souvent les enfants légitimes l'apprennent, ils le savent déjà. Dans leur inconscient. Et quand ils l'apprennent, eh bien, leur père est un être qu'ils méprisent non pas d'avoir eu un enfant en dehors, mais qu'ils méprisent de ne pas avoir pris ses responsabilités.
Ils ne le mépriseront pas parce qu'ils apprendront qu'il a eu un enfant de quelqu'un qui n'est pas leur mère.
Mais bien sûr que non. Ah.
Tableau numéro 4, le cas Dominique. C'est avec ce livre paru en 1971 que Françoise Dolto devint véritablement ce qu'elle était depuis toujours, une clinicienne hors pair dont l'écoute auprès des jeunes enfants et de leur détresse ne devait jamais se démentir. Avec des mots simples et des gestes de tous les jours, elle allait tisser cette identité qui serait désormais la sienne, l'analyste numéro 1 de tous les enfants de France en difficulté.
Ce cas Dominique est évidemment un cas extrêmement, d'abord je crois, douloureux, on peut le dire, et difficile. Vous l'avez choisi pour servir d'exemple, en quelque sorte, comme élément de travail pour d'autres psychanalystes. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Pour d'autres psychanalystes. Pour
les recherches.
Pour la recherche.
Oui.
Et pour montrer la différence qu'il y a entre beaucoup de psychothérapies valables, mais qui ne sont pas psychanalytiques, et ce que c'est qu'une psychothérapie psychanalytique. On pouvait déjà s'en rendre compte par psychanalyse et pédiatrie, mais qui ne s'adressait qu'à des enfants qui avaient des troubles de comportement ou des troubles de fonctionnement physique. Mmh. Et là, il s'agit d'enfants qui ont des troubles de la fonction symbolique, c'est-à-dire de la relation aux autres êtres humains. Mais cet aspect qui faisait qu'ils n'étaient pas comme les autres, ne doit jamais nous faire oublier qu'un être humain est un être humain à 100%, toujours, en tant que sujet dans ce corps qui ne trouve pas à communiquer. Or, on est étonné des phrases d'échange qu'il y a au début. Et on est étonné que cet enfant me disant « j'ai vécu une histoire vraie » et que je lui réponde « qui t'a rendu pas vrai ». Hein ? Mais pourquoi ? Parce qu'un psychanalyste réagit exactement par rapport à ici et maintenant. Or, cet enfant, ce garçon de 14 ans, qui paraissait un adolescent, me parlait avec une voix de bébé de 2 ans. Donc, il n'était pas vrai. Et c'est pour ça que je lui ai répondu ça.
Oui. Il était mal à l'aise donc dans sa famille. Enfin, en deux mots, on peut situer cette famille. Une mère qui est tout de même très, très infantile,
oui,
je crois,
des parents ont souffert.
Un père toujours absent.
Oui.
Un frère aîné de 2 ans et demi à peu près. Oui. Et une sœur de 2 ans et demi aussi.
Qui avait été le soleil de la famille.
Qui a été le soleil de la famille.
Quand
et qui, justement, ce soleil a rejeté dans l'ombre, ou a fait croire à ce Dominique qu'il était rejeté.
Voilà. Comme beaucoup d'enfants à la naissance d'un puiné.
Oui, c'est cela.
Beaucoup
d'enfants. Est-ce que ce n'est même pas général ?
C'est général. Si l'enfant ne montre pas sa jalousie, c'est qu'elle est encore plus profonde et non montrable.
Oui.
Et cette jalousie, il faut comprendre ce que c'est. Ce n'est pas la jalousie que nous pouvons voir chez les animaux domestiques, qui existe aussi.
Oui.
C'est un problème d'identité chez l'enfant. Et d'ailleurs, il le dit à un moment. Qu'est-ce qui est mieux, les filles ou les garçons ? N'est-ce pas ? C'est un problème de valeur, c'est-à-dire d'éthique pour les parents, de valeur pour soi-même. Est-ce que d'être dans un corps de garçon, dans un corps de fille, c'est mieux, c'est moins bien ? Est-ce que je suis moins valable comme enfant de mes parents en étant moi que si je m'aliène en m'identifiant à l'autre ? Je crois que ce qui est intéressant dans ce livre, ça montre comment un enfant se construit dans les premières années de sa vie et que cette structure triangulaire père-mère-enfant des 3 premières années de la vie structure la valeur d'un être humain à la fois dans son être comme interlocuteur valable et dans son être qui va devenant un adulte de ce sexe. La psychanalyse, c'est une étude du désir authentique et je pourrais presque dire autochtone à son corps de chaque être humain et qui est à passer dans la communication symbolique le langage pas seulement verbal, le langage avec autrui, en tant qu'autrui considère cet être humain depuis le jour où il apparaît au monde comme un être valable appartenant à son avenir.
Jean Dalvez.
Oui, mais ça, c'est votre point de vue de médecin. Mais de la part de l'enfant,
oui.
Est-ce que le fait que vous soyez en train d'écrire ce qu'il dit n'a pas une influence sur lui et ne le bloque pas à certains moments ?
L'expérience montre que non. Ça le bloquerait si ça me bloquerait. C'est là que vous ne comprenez pas qu'un être humain qui est en face d'un être humain qui est là pour lui, eh bien, l'habitus particulier de l'être humain psychanalyste fait partie pour l'autre de ce qu'il écoute. Or, il arrive que l'enfant dise, vous écrivez, et je dessine tout ce qu'il fait.
Oui, d'ailleurs, il y a des dessins dans
tout est dessiné tout le temps.
Et des reproductions de modelage.
C'est croqué immédiatement, fait par moi. Et il arrive qu'un enfant regarde, dise, oui, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Ils disent, pourquoi vous écrivez ? Et il dit, je ne veux pas que tu écrives, je ne veux pas que vous écrivez. Je dis, mais j'écris pour mieux t'écouter. Ah, et puis il y en a qui prennent les papiers, qui les déchirent et qui les jettent au panier, ils sont bien libres.
Avec cet enfant,
j'ai choisi
oui.
ce cas, j'en ai des centaines que j'aurais pu prendre, parce qu'il me semblait intéressant de communiquer tout pour que ça puisse servir à l'étude des psychanalystes, qui n'étudient pas le cas, eux, comme vous avez l'air de le faire, qui étudient le transfert, c'est-à-dire la relation qui existe de lui à moi et de moi à lui. Et c'est à travers cette relation que l'enfant retrouve sa vérité et son ordre. Et si j'étais une autre personne, une autre constellation psychologique, aussi psychanalysé. Les échanges eussent été différents, mais le chemin que l'enfant faisait aurait été le même.
Ce que vous appelez le transfert, est-ce synonyme de guérison ? Puisque vous êtes un médecin, vous avez des malades devant vous. Quand on va voir un médecin, c'est parce que
mais nous ne sommes pas des médecins.
Si, vous êtes des médecins.
Mais non, il y a beaucoup de psychanalystes qui ne sont pas des médecins.
Oui, mais enfin, vous êtes médecin.
Oui.
Donc, vous avez devant vous des malades qui viennent vous trouver pour être guéris. Ils ne viennent pas vous trouver pour faire un jeu.
Ils viennent pour être mieux dans leur peau.
L'important n'est pas guérir, mais de vivre avec ces mots, mais, disait Gide en citant l'abbé Gallieni.
D'abord, un psychanalyste ne sait pas ce que veut dire guérir. N'est-ce pas ? Un médecin qui a une norme de santé peut dire ce que veut dire guérir. Nous avons une autre, il n'y a pas de norme, mais une autre compréhension de l'être humain qui est qu'un être humain qui communique en vérité est un être humain vivant.
C'était Allo Dolto Bobo, ou le portrait d'une clinicienne hors pair. Une émission de Marie-Christine Navarro, mixage Jean-Claude Gauthier, réalisation André Mathieu, avec des éléments de l'Institut National Audiovisuel de 1948 à 1981.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 octobre 1989.